Si vous avez une Bible entre les mains, je vous invite, avant de lire un passage, de déjà l'ouvrir dans un psaume. Nous restons dans l'Ancien Testament ce matin et je vous invite à trouver le psaume 33. Nous n'allons pas le lire en instant, en entier, mais ça sera là notre texte de méditation de ce matin. La deuxième partie du psaume 23 à partir du verset 13, pardon, du verset 12 jusqu'à la fin, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Avez-vous déjà croisé le regard de quelqu'un? Bien sûr. Dans les regards que nous pouvons échanger, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui se disent sans parole. Beaucoup de choses passent dans le regard. Tout peut passer dans un regard. Le mépris, l'encouragement, la fierté, la réprobation. Il y a les regards des autres sur soi, mais il y a aussi le regard que l'on porte sur soi qui peut encore avoir plus de poids que celui d'une autre personne. Nous pouvons, quand nous nous regardons, ne pas nous aimer. Nous pouvons être déçus de nous-mêmes. Nous pouvons vivre avec cette idée que nous n'arriverons jamais aux exigences que nous nous sommes fixées. Nous pouvons avoir un regard sur nous-mêmes qui me dit « je ne suis jamais à la hauteur », surtout quand je me compare aux autres. Ou à l'inverse, lorsque je me regarde dans le miroir, je peux être plein d'admiration me concernant, en admiration de moi-même. La force d'un regard dépend aussi de celui qui nous l'adresse. Peut-être qu'un regard glacé de la part d'un inconnu n'aura que peu d'effet pour celui qui le reçoit. À l'inverse, un regard réprobateur d'un proche peut vous ébranler profondément. En réalité, notre vie se construit, notre personnalité se façonne aussi avec le regard des autres. Cela construit et oriente notre vie. Je vous invite à lire la deuxième partie du psaume 33, à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 22. Ce psaume aborde deux thèmes. La première partie, c'est celui du Dieu créateur qui crée toutes choses. Et la deuxième partie sur laquelle nous allons nous arrêter ce matin, nous parle de ce Dieu qui conduit l'histoire des nations, mais qui conduit aussi ma vie. Et ce psaume nous invite à placer notre confiance en ce Dieu. C'est ainsi qu'il va se terminer. Et je vous invite à cette lecture, psaume 33, du verset 12 jusqu'au verset 33. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le peuple pour qu'il a choisi, pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous. Et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour, pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Et je vous propose ce matin une méditation en trois parties qui suivent la pensée de l'auteur, du psalmiste. Nous allons nous attarder tout d'abord sur les versets 12 à 15. Dieu nous regarde. Puis nous allons parler de ce cheval, les versets 16 et 17, ce cheval puissant et vigoureux, pour ensuite terminer sur cette dernière partie, les versets 18 à 22, où là, c'est nous qui regardons à l'Éternel. Pour la première partie, revenons au verset 12, 13. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains, tous les humains. Et de son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Quelques mots sur ces versets. Il est question du haut du ciel. Il est question du trône. En fait, par cela, le psalmiste dit que Dieu règne sur la terre depuis le ciel. Il présente Dieu comme celui qui nous est supérieur, qui est différent de nous. Il est au ciel, nous n'y sommes pas. Il est sur un trône, nous ne régnons pas. Et pourtant, ce Dieu s'intéresse à nous. Depuis le lieu où Dieu est, ce lieu où Jésus est allé le rejoindre à l'ascension, dans son corps de ressuscité, depuis le lieu où Dieu est, qui est absent des cartes célestes, aucun GPS n'a répertorié sa demeure, mais Dieu est un endroit qui est dans un endroit qui ne nous est inconnu, et depuis sa demeure céleste, que fait Dieu ? Il voit les hommes. C'est-à-dire qu'il nous considère. Il nous évalue. Notre vie n'est pas indépendante de son regard. La première partie de ce psaume que nous n'avons pas lu célèbre la création. Et c'est une de ses conséquences de la création. Dieu a créé le monde. Une des conséquences pour nous, les humains créés par Dieu, c'est que notre vie se déroule sous le regard de celui qui nous a créés. Il y a d'autres textes dans la Bible qui l'affirment avec force. Aucune de notre vie, aucune de nos existences n'est anonyme aux yeux de Dieu. Dieu nous connaît personnellement, individuellement, même si nous ne le connaissons pas. Même si nous vivons loin de lui, même si nous n'avons jamais entendu parler de lui, nous ne sommes pas une personne anonyme aux yeux de Dieu. Il nous connaît. Il est attentif à chacun de leurs actes, nous dit le verset 15. Il y a d'autres textes, notamment, je pense au psaume 139, qui vont encore un peu plus loin dans cette affirmation pour dire que Dieu connaît nos pensées les plus profondes. Dieu connaît nos pensées les plus secrètes. Dieu connaît chaque motivation de notre cœur qui détermine nos actes. Dieu n'est pas indifférent à notre conduite. Le fait que Dieu connaisse nos pensées les plus secrètes, même parfois quand nous avons du mal à nous comprendre nous-mêmes, Dieu nous connaît, Dieu nous comprend. Qu'est-ce que cela déclenche chez vous ? La crainte ? Dieu égale super flic ? Ou au contraire ? Je lui appartiens, son regard est bienveillant sur ma vie. Comment est-ce que nous réagissons par rapport à ce trait de la nature de Dieu ? En réalité, tout dépend de ce que nous savons et comprenons de lui. Tout dépend de notre relation avec lui. Si je vis loin de Dieu, rebelle à lui, probablement que son regard sera un regard réprobateur de mes actes. Peut-être même sa colère sur ma vie. Et le psaume donne une note d'espérance que nous allons voir dans la dernière partie et je ne vais pas m'en vendre la mèche à ce stade. Mais Dieu considère nos actes. Deuxième partie qui va nous amener au verset 16 à 17 qui semble être en contraste. Le lien entre ce que nous venons de dire et la suite n'est peut-être pas évident. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Quelques mots sur ce cheval et cette armée. C'est ici le symbole de la puissance, de la force. La vigueur désigne la capacité à durer dans le temps, avoir une énergie qui permet de déplacer des obstacles. Le cheval vigoureux donne l'impression qu'il ne s'épuise pas. Et le psalmiste veut nous dire que toute cette force, toute cette vigueur, toute cette puissance, tout cela ne suffit pas pour être assuré de la victoire. Il y a là une métaphore de la guerre des obstacles à franchir. Et comment est-ce qu'on arrive à franchir ces obstacles avec une armée grande et puissante? Quelle est la pensée de l'auteur de ce texte? Celui qui pense tout maîtriser, celui qui pense tout gagner dans la vie parce qu'il est grand, parce qu'il est fort, parce qu'il est costaud, cette personne n'est pas assurée de mener à bien tous ses projets ou de tout réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que le dernier mot appartient à l'Éternel. Le psalmiste mentionne au moins deux exemples dans la vie dans lesquels il nous faut faire preuve d'humilité. Que peut faire la force du cheval face à la mort et à la famine? La question est ouverte, mais la réponse tombe toute seule. Rien. Quelles sont les armes dont nous disposons pour bâtir notre vie? Quels sont les chevaux puissants et vigoureux que nous montons pour avancer dans la vie? L'intelligence? Passer le bac, pour les uns, c'est une simple formalité. Pour les autres, une réelle épreuve qui va mobiliser tous les efforts sans être assuré de la réussite. Quel est le cheval sur lequel vous êtes installé pour mener les épreuves, la vie, pour se construire? L'argent? Certains en ont plus que d'autres, c'est une réalité. Et d'autres le gagnent plus difficilement que certains. La capacité de travail? 5 heures de sommeil suffisent pour les uns, quand d'autres ont besoin de 10 heures. Pour disposer d'un peu de courage et de force pour mener à bien la journée. Un talent ou un don particulier? Une bonne éducation? Une famille dans laquelle vous avez grandi qui, jusqu'à un certain point, oui, conditionne votre avenir? Nous avançons dans la vie avec ce que nous sommes pour construire nos réussites ou pour parfois simplement survivre. Et nous avançons avec plus ou moins d'assurance, plus ou moins de confiance en soi, plus ou moins de volonté. Nous n'avons pas tous le même cheval. Il est plus ou moins puissant, mais naturellement, nous plaçons notre confiance en quelque chose pour avancer dans la vie. Et quand bien même nous aurions le cheval le plus puissant à notre disposition, serions-nous assurés de tout maîtriser, d'avoir le contrôle complet de notre vie et de nos projets? Le constat sans appel du psalmiste est le suivant. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et sa vigueur ne suffit pas. En d'autres termes, nos plus grands talents, notre plus grande force ne suffisent pas à eux tout seuls pour prétendre contrôler le destin de notre vie et surmonter nos épreuves. Et ceux qui connaissent la fragilité et les limites le remarquent peut-être plus rapidement que ceux qui sont forts et doués. Mais dans les deux cas, il y a un cheval qui court quelque part. Cheval fort, ou peut-être aussi l'apitoiement qui consiste à dire: je n'ai qu'un âne qui n'avance pas très vite dans la vie. Le psalmiste présente 2 limites à ses prétentions. Nous les avons mentionnées tout à l'heure. Nul n'est suffisamment fort pour affronter la mort. Et nul n'est suffisamment fort quand l'essentiel vient à manquer, comme la famine ou la nourriture, la famine qui s'impose. Cette première limite nous place en face de la mort. Personne ne sait quand et dans quelles circonstances la mort viendra contrecarrer et mettre fin à nos projets. La deuxième limite, qui est celle de la famine, nous rappelle qu'il y a des circonstances dans la vie qui sont complètement en dehors de notre contrôle, comme la maladie, qui peut surgir et mettre fin à des projets, une carrière, à de la force, la possibilité de se projeter dans l'avenir. Toutes ces circonstances, quand le cheval grand et puissant perd sa vigueur ou qu'il est empêché de galoper. Quels sont vos projets? Quelles sont vos attentes pour la vie? Quel est votre cheval, votre recette pour réussir? Quelle est votre expérience de vie à cet endroit? Êtes-vous dans l'espérance de tout ce que la vigueur de votre cheval pourra encore vous amener pour mener à bien vos projets? Ou est-ce que vous avez déjà perdu toutes les illusions sur vous-même? Vos propres limites vous rappellent quotidiennement et régulièrement que votre cheval est mort depuis longtemps. Cette deuxième partie de notre méditation nous met en garde contre le sentiment de toute puissance. Et il donne aussi de l'espérance à ceux qui sont fragiles, à ceux qui sont faibles. En fait, ce que nous dit le psalmiste, c'est que la réussite de notre vie et de nos projets dépendent d'un autre principe. Et c'est là notre troisième et dernière partie. Écoutez ce que le psalmiste dit un peu plus haut dans le texte, tu n'es pas obligé de l'afficher, mamie. Verset 10, « L'Éternel fait échec au dessein des nations, il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. » Verset 18, « L'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. » Qui fait réussir nos projets? C'est l'Éternel. Et il faut le comprendre ici de la bonne manière. Dieu n'est pas présenté ici comme un porte-bonheur. Je le prie, il me bénit. Je l'appelle, il me secourt. Je suspends une croix au rétroviseur de ma voiture et je n'aurai jamais d'accident gravissime sur la route. Ce n'est pas de cela dont il est question dans ce texte. Ce que le psalmiste veut dire, c'est que Dieu conduit toutes choses dans ce monde, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, du moindre détail de notre vie aux plus grands enjeux de la planète, comme celui de la pandémie. Dieu contrôle. Dieu gouverne. Dieu pilote de manière parfaite autant la destinée du monde que celle de ma vie. Le verset 18, nous le relisons, « L'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour. » Craindre l'Éternel, dans le contexte de ce psaume, c'est reconnaître et accepter la souveraineté de Dieu. Craindre l'Éternel, c'est accepter que mon cheval n'est pas celui qui conduit toute chose, mais que je lui fais confiance. Je lui confie la destinée de ma vie et j'accepte que même si j'ai un cheval puissant, il ne pourra jamais être souverain comme Dieu l'est. Craindre l'Éternel, c'est lui faire confiance, c'est reconnaître et accepter que mes projets, ma destinée est entre les mains de l'Éternel. Et regardons un instant les conséquences de la foi. C'est-à-dire, la foi ici, c'est quoi? C'est quelqu'un qui place sa confiance en l'Éternel, qui reconnaît qu'il est souverain. C'est quelqu'un qui craint l'Éternel, au sens où nous venons de l'expliquer. Regardons ce que Dieu promet à celui qui place sa confiance en lui. Et avant de nommer ces privilèges, je vous invite juste à sonder, à songer à ce qui vous occupe actuellement dans vos pensées. Qu'est-ce qui est au cœur de... Quelle est votre préoccupation au cœur de votre vie actuellement? Vous l'avez? C'est bon? Je vois des têtes qui affirmatives. À vous dont le cheval est mort, maladie, avenir incertain, attente de résultats de concours, d'orientation, situation professionnelle difficile, à vous qui avez perdu les illusions sur vous-même, écoutez ceci. L'Éternel prend soin de vous. Vous pouvez compter sur l'amour de Dieu à votre égard. L'Éternel intervient dans les situations les plus désespérées comme la mort ou la famine. Là où nous ne maîtrisons plus rien, l'Éternel intervient. L'Éternel vient au secours de nos situations. Et vous trouverez en lui la joie et votre confiance ne sera jamais déçue. À vous qui pensez chevaucher le monde avec un cheval puissant, à vous qui pensez que la réussite est entre vos mains, n'oubliez pas que vous n'êtes pas aussi puissant que vous n'en avez l'air. Le dernier mot appartient à l'Éternel. N'oubliez pas que Dieu ne pourra pas prendre soin de vous si vous placez votre confiance dans votre propre force. Vous ne pourrez pas être aimé de Dieu si vous vous aimez d'abord vous-même à cause de votre puissance et de tous les talents que vous possédez. Cela est un obstacle à la compréhension, la réception de l'amour de Dieu. Peut-être qu'il vous faudra connaître l'échec, la désillusion de vos capacités de puissance pour accepter de recevoir le secours du Seigneur. Et vous connaîtrez la joie que donne le Seigneur. Si dans la première partie de ce texte que nous avons lu ensemble ce matin, c'est l'Éternel qui porte son regard sur nous, la fin de notre texte nous invite à porter notre regard sur le Seigneur en réponse à son regard. Ce psaume se termine par une demande, une prière. C'est la prière de celui qui craint l'Éternel. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Le croyant demande à être au bénéfice de ce que Dieu donne, car il sait qu'il ne dispose pas en lui de la force et de la vigueur du cheval. Il est conscient que son avenir dépend du Seigneur. Il est conscient que ses destinées sont entre ses mains. Il ne peut donc que dire cette dépendance et réclamer les faveurs du Seigneur. Et à la lumière de cette fin de texte, nous comprenons mieux ce qui est dit au début du texte. Quand l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains, il reste attentif à chacun de ses actes. Le regard de Dieu est favorable sur tous ceux qui le craignent. Dieu est particulièrement attentif à cette conduite-là, celle du croyant qui se confie en lui. Cela l'honore. Et je termine par un mot de conclusion en reposant cette question. Quel est le regard de Dieu sur votre vie? Le texte que nous venons de lire ce matin, il a 3000 ans d'âge. Dieu se soucie toujours encore de notre monde. Il y intervient de manière permanente pour que la vie soit encore possible, sans cela, le monde irait encore plus mal qu'il ne va aujourd'hui. C'est ce que nous appelons la grâce commune de Dieu à l'égard de tous les hommes. Et Dieu considère aussi les actes de chaque personne, non pas parce qu'il prend plaisir à compter les fautes, les erreurs, les péchés de chacun, mais parce que Dieu est juste. La Bible martèle souvent ce message que nous aurons des comptes à rendre à Dieu, que Dieu ne laisse pas le coupable pour innocent. Et c'est vrai que la colère de Dieu est sur ceux qui ne le craignent pas. Ceux qui placent leur confiance en eux plutôt qu'en Dieu. Cela offense l'Éternel parce que c'est l'affirmation de l'indépendance totale de l'homme à l'égard de l'homme. Un non-sens. Qui peut prétendre détenir toutes les rênes de sa vie? Quel est le regard de Dieu sur le croyant ce matin, aujourd'hui? J'aimerais souligner ici les conclusions de ce psaume que nous venons de lire à la lumière de notre union avec Christ. Pour le croyant qui est uni à Christ, le regard de Dieu est définitivement bienveillant, définitivement aimant. Pourquoi ? Parce que la justice de Christ nous a été imputée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Personne d'entre nous, croyant ou pas, n'est parfait. Personne ne peut remplir les conditions de notre obéissance à Dieu. Nous avons tous couru un cheval ou un autre, nous avons tous à un moment ou un autre revendiqué notre indépendance et notre rébellion à l'égard de Dieu. C'est dans notre condition humaine à cause du péché. Mais voilà, le croyant, celui qui place sa confiance en Christ, reçoit la justice de Christ. Il n'est plus condamné, définitivement plus condamné. Et ce qui veut dire que Dieu, du haut du ciel, comment voit-il nos actes ? Il ne peut les voir qu'au travers de Christ, même si aujourd'hui encore il nous arrive de pécher. Dieu nous voit au travers de la justice de Christ qui nous est définitivement donnée, définitivement appliquée. Nous sommes assurés de la part de Dieu, non pas d'un regard réprobateur, pas parce que je le mérite, mais parce qu'il me voit au travers de la perfection et de la justice de Christ. Il est mort à la croix, il a payé pour moi. Je suis définitivement l'objet de l'amour de Dieu. Pas parce que je le mérite, mais encore une fois parce que Dieu m'a adopté, il a fait de moi son enfant au travers de Christ. Et c'est la raison pour laquelle Dieu m'aime. Toucher un croyant, c'est toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. C'est dire combien nous sommes chers aux yeux de Dieu. Pas parce que je le mérite, mais parce que Dieu nous voit au travers de Christ. Ce qui veut dire que les promesses de ce psaume sont d'autant plus vraies pour celui qui craint l'Éternel, c'est-à-dire pour le croyant, à cause de notre union avec Christ. Le croyant, c'est quoi ? C'est un aveu joyeux de faiblesse, un abandon du sentiment de toute puissance qui a pu habiter mon cœur. Le croyant reçoit Dieu et le cadre de vie que Dieu lui pose pour son existence, à savoir sa souveraineté. Et c'est les raisons pour lesquelles nous pouvons dire avec joie et confiance que l'Éternel prend soin de moi, l'Éternel m'aime, l'Éternel me délivrera des circonstances de vie les plus improbables et les plus compliquées. Nous pouvons dire avec foi et assurance, nous comptons sur l'Éternel. Oui, il est mon protecteur. Et je peux dire que je trouve ma joie en lui. Et je veux répondre à cet amour de Dieu pour moi en disant que ma confiance, je veux la placer en lui. Et donc demander à Dieu, comme ce psaume termine, accorde-moi ta grâce, moi ton enfant, que tu as racheté, que tu as définitivement justifié, accorde-moi ta grâce, parce que je compte sur toi. Amen. Je vous invite à faire nôtre pour terminer ce culte, cette prière du psalmiste. Et je vous invite à relire les versets 18 et 22 comme une prière que nous voulons adresser ensemble à l'Éternel et Je vous invite à le dire du fond de votre cœur. Voilà, voilà ce que nous voulons de dire. Voilà ce que nous voulons dire de Dieu. Et voilà aussi ce que nous voulons demander à Dieu. Seigneur, tu es au ciel, nous sommes sur terre et nous voulons terminer encore ce culte avec ces paroles que nous voulons confesser. L'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent. Nous comptons sur ton amour, Seigneur. Parce que toi, tu délivres de la mort et tu préserves notre vie au jour de la famine. Seigneur, nous comptons sur toi parce que tu es notre secours et tu es notre bouclier. Et Seigneur, merci pour toute la joie que notre cœur trouve en toi. Oui, notre confiance, nous la plaçons en toi, toi notre Père céleste qui nous a rachetés en Jésus-Christ. Et pour cette journée, pour cette semaine, pour les défis qui sont devant nous, pour toutes ces batailles qu'il nous faut livrer, nous voulons te demander ta grâce, ô Éternel, parce que nous comptons sur toi, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ton secours. Et toutes ces choses, nous te les demandons au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et puis une bonne semaine et à tantôt. Nous nous retrouverons encore dimanche prochain ici pour le culte. Bon dimanche.